Europe 1.
À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy ce soir, Catherine Ney, Adélaïde Zulfikar Pasic, directrice du département opinion du groupe BVA, et Alix Bouyaguet, rédactrice en chef de Vous avez la parole sur France 2. Bonsoir mesdames.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio, ravie de vous avoir là pendant une demi-heure pour décrypter, décortiquer ce nouveau sondage que vous nous proposez, Adélaïde, ce soir. Le bras de fer dans les sondages, évidemment, cela va de soi puisqu'on est à 4 jours du premier tour. Entre Rachida Dati particulièrement et Anne Hidalgo continue ce bras de fer. Alors on va regarder de près le vôtre désormais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme enseignement d'ores et déjà? C'est que Rachida Dati et Anne Hidalgo, si elles sont au coude à coude, c'est la candidate LR qui prend un peu la main.
Elle prend un peu la main, mais là on parle d'un point d'écart, donc on peut quand même dire qu'elles sont dans un mouchoir de poche à quelques jours du scrutin, alors même qu'un quart des électeurs parisiens déclarent pouvoir encore changer d'avis. Donc on voit quand même qu'on est quand même dans une incertitude par rapport à laquelle arrivera en tête du premier tour, mais elles font la course en tête toutes les deux et distance Agnès Buzyn, qui est la troisième du trio, mais à 19% seulement d'intention de vote.
On dit un mot de David Belliard à 12%, Cédric Villani qui plafonne, j'allais dire, hein, à 7%. Il y a une déception ou...
Alors, pour David Belliard, certainement, parce qu'on peut rappeler que Europe Écologie Les Verts avait réalisé un très bon score aux européennes à Paris, près de 20%. Donc avec 12%, c'est très en deçà des ambitions qu'ils avaient pu nourrir pour Paris. C'est le premier point. Et pour Cédric Villani, certainement également, puisqu'on avait vu une dynamique en début de campagne, il est monté à 13, 14 dans certains sondages. Après, il faut avoir en tête que Paris, ce n'est pas un scrutin, mais 17 scrutins, avec autant de configurations de premier tour possibles et des équilibres de force très différents aussi. Et Cédric Villani pourrait se maintenir dans un ou plusieurs arrondissements. Ça va se jouer au cas par cas.
Bien sûr, on va regarder évidemment tout ça dans le détail dans un instant. Je voudrais avoir votre regard, mesdames. Catherine Ney, comment vous observez là au fil des sondages? On voit bien que la dynamique, elle a l'air d'être pour Rachida Dati. Enfin, elle a l'air, mais ça se joue dans un mouchoir de poche, effectivement, comme le disait Adélaïde.
Bah oui, parce qu'elle a fait une bonne campagne. Et alors, il est vrai qu'elle a crédité de 25% des voix et qu'il y a 6 ans... Nathalie Kosciusko-Morizet, elle avait recueilli 35% des voix et elle avait été battue par la maire actuelle. Donc, est-ce que malgré une bonne campagne, elle peut gagner? Alors, la différence avec Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est qu'elle a fait campagne dans l'Est parisien, ce que n'avait pas fait, ou apparemment, sur le terrain. Alors, je ne sais pas comment ça va, quel résultat ça va donner, mais elle a fait une campagne pas seulement dans l'Ouest de Paris où la droite
domine en général,
encore que on a vu qu'aux européennes c'était les en marche. Donc moi je dois dire que c'est une élection où je ne vois rien, je n'ai aucun sentiment. Je pense qu'il va y avoir des triangulaires, des quadrangulaires. Et comment, à la fin, moi, j'ai des espérances pour l'une ou l'autre et des regrets pour d'autres, mais
Difficile, effectivement. Vous avez raison, Catherine. C'est vrai qu'en 2014, Alix Bouyaguet, la situation, elle était quand même assez simple lors des précédentes municipales. Là, on voit bien au fil des sondages qu'on a du mal, de toute façon, à avoir une course en tête.
C'est clair que mathématiquement, quand on se dit qu'il y a 6 ans, NKM obtenait 35% au premier tour et que la finale Rachida Dati n'obtient que 25%. Ouais. Moi, mathématiquement, je ne vois pas trop comment elle peut s'en sortir. Après, on va parler des alliances, forcément, il y en aura avec qui? Alors, à un moment, on avait imaginé qu'il pourrait y avoir des alliances avec Agnès Buzyn. On avait au dernier débat hier soir que
c'était pas gagné.
C'était pas gagné, mais en revanche, c'est une élection, vous le disiez tout à l'heure, qui aussi se joue dans les arrondissements. Alors, est-ce que dans les arrondissements, il pourrait y avoir des petites tambouilles qui feront qu'à l'arrivée, ça ramasse des voix? Puis ne pas oublier non plus que le scrutin parisien, c'est premier tour, deuxième tour et troisième tour. Et que là aussi, les choses peuvent se jouer et les petits arrangements entre amis peuvent aussi arriver.
Et oui, qu'est-ce qu'on se dit, Adélaïde Zulfikar Pasic, aujourd'hui, à ce stade, les alliances imaginables au vu du second tour au regard du sondage?
Alors, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, on peut se dire que dans certains arrondissements, des candidats La République En Marche peuvent s'entendre avec les Républicains, mais ça ne sera pas le cas partout. Je prends par exemple l'exemple du 12e arrondissement. La candidate, c'est une ancienne députée socialiste, donc pas sûr que les électeurs la suivent dans le cas d'une telle alliance.
Même du 15e arrondissement, on peut citer aussi le 15e arrondissement.
Alors, le 15e,
c'est encore un cas particulier.
C'est un cas particulier, parce que là, c'est effectivement, on est plutôt face à une dissidence de la droite. Enfin, Philippe Goujon, qui est quand même le maire sortant, qui lui, d'ailleurs, avait toujours dit qu'il pourrait tendre la main à La République En Marche. Tout va dépendre de qui arrive en tête dans cet arrondissement. Si Rachida Dati arrive en tête, elle sera plus en, en capacité peut-être d'imposer le tempo, si c'est lui. Voilà. Mais tout ça montre qu'on a une complexité, effectivement, comme le rappelait Catherine, de la situation, qui fait qu'on est bien en peine de pouvoir se dire concrètement ce qui va se passer. Le 22 mars.
Juste si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui est amusant dans le cas de Philippe Goujon, c'est que j'ai vu un tweet passer de Xavier Bertrand qui arrive à faire comme le tour de force de à la fois saluer et soutenir le candidat dissident Philippe Goujon et en même temps prier pour la victoire de Rachida Dati.
Oui. Donc il dit, c'est un tour de force. Le 15e, c'est pour Goujon, la mairie, c'est pour Dati. Voilà. Donc,
Bon, alors on s'en reparle dans un petit instant parce qu'il y a aussi les priorités des Français. Particulièrement des Parisiens avec votre sondage BVA pour Orange et Europe 1 dont on se reparle, mesdames, dans un petit instant.
Et vous pouvez réagir au 39-21 ou sur Twitter, hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy, vous recevez Catherine Ney, Adélaïde Zulfikar-Pasic, directrice du département opinion du groupe BVA, et Alix Bouillaguet, rédactrice en chef de Vous avez la parole sur France 2.
Oui, mesdames, on regarde de près ce sondage BVA pour Orange et Europe 1 à 4 jours maintenant du premier tour de ces municipales. Sondage qui zoome sur Paris avec Rachida Dati, une courte avance sur la maire socialiste sortante, 24% pour Anne Hidalgo, 25% pour Rachida Dati. Quant à Agnès Buzyn, elle arrive entre en campagne sur le tard, hein, on s'en souvient. Elle se maintient de son côté en troisième position à 19%. Un mot sur les priorités des Parisiens, évidemment, Adélaïde Zulfikar-Pasic, parce que on voit qu'il y a la propreté qui arrive en tête et on n'est pas surpris, j'ai envie de dire.
On n'est pas surpris, effectivement, mais il faut quand même souligner que l'écart avec la moyenne des Français est spectaculaire. Il y a 30 points de plus de préoccupation, donc on voit bien que c'est un sujet de campagne, et on en parle depuis un moment, qui pourrait d'ailleurs être un peu préjudiciable à Hidalgo, parce que c'est quand même son bilan. Alors, elle a beau faire des propositions et dire qu'elle va faire une rallonge budgétaire, c'est vrai que c'est compliqué pour elle, sur ce sujet spécifiquement, de se démarquer. Parce qu'elle est, voilà, elle est tributaire de ce bilan.
Bah oui, on voit régulièrement Catherine Ney, Alix Bouillaguet, des vidéos de Parisiens qui postent les rats autour des poubelles, même au Trocadéro. J'en ai vu une pas plus tard que la semaine dernière, de vidéos édifiantes. Il y avait une horde de rats. On est en pleine épidémie de coronavirus. Ça peut impacter ça et ça peut desservir Anne Hidalgo, en effet.
Bah oui. D'ailleurs, les Français, enfin évidemment, ceux qui vivent à Paris le constatent, mais je veux dire, c'est l'étranger maintenant. Tous les hôteliers disent que ce qui frappe les étrangers qui viennent à Paris, c'est la saleté de la capitale avec les ordures qui sont pas ramassés sur les places, et puis les rats. Ça, c'est vrai que la saleté... Alors, Madame Hidalgo est aussi victime du fait qu'il y a eu des grands travaux partout dans Paris, et partout il y a des trous, eh bien, ceux qui vivent en dessous du macadam remontent. Alors ça, c'est vrai. Et puis, il y a aussi l'incivilité des Parisiens qui jettent leurs mégots, leurs chewing-gums, tout ce qui est puni dans d'autres villes, là, se faire. Mais quand même, je pense que la propreté n'était pas quand même une des grandes idées de Madame Hidalgo, et peut-être que là, ça... Elle est moins bien placée en parlant aujourd'hui que ses deux adversaires, et dont Rachida Dati, qui en a fait un thème de campagne tout de suite.
Évidemment. Alix Bouillaguet.
Oui, non, mais c'est évident que c'est à mettre à son crédit ou à son débit.
Ou à son débit.
Plus exactement. Après, elle a aussi essayé de situer la campagne sur un autre niveau, et elle s'est extrêmement verdie. Donc, elle essaye aussi de pouvoir envisager une éventuelle alliance avec David Béliard. Donc, elle essaye de surfer sur d'autres thèmes. Je trouve que le premier débat, elle était vraiment dans les cordes et on a senti qu'elle s'est pris son bilan vraiment clairement de face.
C'était vraiment sur la défensive.
Le deuxième débat d'hier, on a vu qu'elle reprenait un petit peu l'ascendant et que, à l'heure où on se parle, ça semble quand même la mieux placée pour se succéder elle-même.
Se succéder. Alors justement, d'un mot...
Il y aurait tutoyé ostensiblement Cédric Villani pour montrer la proximité.
Vrai. Exactement. Ouais, on a vu le jeu. On a vu le jeu aussi de Rachida Dati, d'un mot qui va de ses punchlines maintenant régulièrement sur les plateaux télé lors des débats. Typiquement hier sur les alliances pour le second tour, on n'est pas dans Koh-Lanta parce que le vrai match se fera au troisième tour pour l'élection de la maire par les conseillers de Paris.
C'est une réalité. Effectivement, la formule était très bien trouvée. Ouais. On parlait de punchline. C'est un petit peu hypocrite parce qu'il est évident que de son côté aussi, elle est sans doute en train de penser à ce second et à ce troisième tour. Mais on le voit bien, il y a des arrondissements qui vont être des arrondissements clés, notamment le 14e arrondissement qui aujourd'hui est dirigé par une maire socialiste. Et c'est un arrondissement qui cristallise les espoirs de l'opposition. Et dans cet arrondissement-là, pour donner un exemple très concret, Catherine disait qu'on pouvait avoir parfois 4 ou jusqu'à 5 listes. Là, on pourrait très bien se retrouver avec une situation où on a la liste socialiste qui se qualifie, la liste d'Europe Écologie Les Verts, la liste de Cédric Villani, la liste LREM et la liste LR. Avec tout ça, Cédric Villani se retrouve un petit peu en faiseur de rois, de reine, mais qui aujourd'hui est capable de dire ce qu'il va faire, est-ce qu'il va se maintenir, est-ce qu'il va s'allier, c'est très compliqué.
Dans votre cas, vous dites que 65% des gens qui vont voter souhaitent changer d'équipe municipale.
Il y a un paradoxe.
Il y a un paradoxe
parce qu'elle est très clivante, elle suscite un peu un phénomène je t'aime, je te déteste.
58% des sondés insatisfaits en ce qui la concerne.
Oui, c'est ça, Anne Hidalgo, c'est beaucoup plus fort que la moyenne nationale.
Exactement.
Mais elle est très clivante. Et elle a des vrais supporters, les sympathisants socialistes apprécient beaucoup son bilan et les sympathisants Europe Écologie Les Verts également. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que David Belliard a un score assez faible par rapport à ses ambitions de départ. Donc elle a des vrais supporters et puis aussi ce que nous disent les Parisiens dans notre sondage, c'est que il n'y a pas non plus d'alternative qui s'impose de manière majoritaire.
Évidente. Voilà. Un dernier mot, Alix Bouyaguet, et après je voudrais qu'on aille en quelques mots, si vous voulez bien, sur la prise de parole d'Emmanuel Macron demain soir à 20h. Et puis Olivier Véran aussi, ce nouveau ministre de la Santé, qui est une forme de révélation peut-être dans cette crise. L'épidémie, évidemment, elle inquiète. On parle de pandémie maintenant, l'OMS l'a dit tout à l'heure. Ça peut jouer sur les votes. C'est la première fois qu'on connaît ça.
Alors, ça peut jouer sur les votes, bien sûr, et je pense que c'est en partie la réponse à laquelle, enfin, il y a une prise de parole demain du chef de l'État. Je pense que le chef de l'État, il voit très bien qu'il pourrait y avoir un impact sur les municipales et que notamment certaines populations, peut-être même les plus vulnérables, les seniors, pourraient ne pas se déplacer. Donc, je pense qu'il va faire, il va rassurer et effectivement faire de la pédagogie sur les procurations, le fait que on peut voter sans se déplacer par ailleurs, et puis expliquer que au sein des bureaux de vote, il y aura les gels hydroalcooliques, les rideaux,
qui va bien,
on va enlever les rideaux des isoloirs, on va avoir du stylo individuel. Enfin voilà, je pense qu'il va essayer de faire un appel au vote puissant et massif.
Un mot encore, Adélaïde, là-dessus ?
Oui, les enquêtes d'opinion le montrent d'ailleurs de manière concrète, ce que disait Alix comme hypothèse, c'est qu'on voit bien qu'en cas d'aggravation de la crise et d'éventuel passage au stade 3, on pourrait avoir des pertes de participation dans certaines zones allant jusqu'à 10 points. Et cette abstention massive, elle serait différenciée. Elle concernerait davantage les populations à risque, les 65 ans et plus, qui parfois déclarent des baisses de participation de l'ordre de 20 points. Et ce sont des gens qui votent davantage pour les Républicains. Donc ça pose aussi une question politique.
Oui, mais on a vu que des jeunes aussi sont les plus frileux pour aller voter. Alors déjà qu'ils ne votent pas beaucoup.
C'est ça, le point de départ, donc
ça serait préjudiciable aux Verts, plutôt.
C'est une histoire de point de départ, parce qu'en fait, dans les enquêtes, on voit quand même que c'est plutôt les seniors qui se démobiliseraient davantage.
Bon, on verra ça, évidemment, dans 4 jours, premier tour. Ensuite, 11 jours pour le second. On s'en reparle dans un petit instant, mesdames. Ce sondage BVA pour Orange et Europe 1, c'était sur Paris. Je voudrais qu'on élargisse, évidemment, au national, parce que demain, prise de parole d'Emmanuel Macron. Et puis Olivier Véran, très didactique. Enfin, vous allez me dire, tiens, ce que vous en pensez.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Adélaïde Zulfikar-Passic, directrice du département opinion du groupe BVA, et Alix Bouyaguet, rédactrice en chef de Vous avez la parole sur France 2.
Deux hommes aujourd'hui sont partout, tiennent, j'allais dire, les rênes et font en sorte d'être dans une position peut-être de chef de guerre pour Emmanuel Macron, et dans une pédagogie, dans une manière d'être très didactique, très illustrée, c'est Olivier Véran. Alors Emmanuel Macron, il parlera demain à 20h, peut-être pour rassurer les Français, en tout cas très brièvement, c'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-Rémy Baudeau. Catherine Ney, il y a ces deux hommes en première ligne aujourd'hui, et c'est plutôt un duo qui fonctionne.
Oui, c'est un duo qui fonctionne. D'ailleurs, il y a très peu d'opposition. Madame Le Pen, d'ailleurs, je crois qu'elle a perdu dans les sondages. Et puis, Dupont-Aignan qui s'est fait rabrouer par Michel Cymès. Bon, et on était d'accord avec lui. Bon, mais le président, il est dans son rôle. Mais il fait très attention à ne pas créer d'angoisse. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire, comme Mme Merkel, que 60 à 70% des Allemands pourraient être affectés. Lui dit au contraire... On contient, il faut d'abord avoir des mesures barrières, des gestes barrières. Donc, il dit surtout que mettre en confinement un pays, c'est absolument pas une chose qui peut se faire dans la durée. Okay. Donc, je ne sais pas ce qu'il va dire. Il va faire un point d'étape. Moi, je crois surtout qu'il veut rassurer les gens et leur dire d'aller voter. Tandis que Olivier Véran,
le tout jeune ministre de la Santé.
Oui, eh bien, il agit dans sa pédagogie comme un médicament. Les gens se disent, après tout, voilà, on lit la notice avec lui de ce qui peut se passer. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il est didactique, précis, compétent, puisqu'il est lui-même médecin, qu'il rêvait de ce ministère. Avec ce, vous savez, il a joué les Giscard qui faisaient des courbes à la télé pour montrer comment allait être la croissance. Lui montre comment, quelles sont les courbes qui ont été définies par des...
Par des spécialistes,
c'est que ça part doucement, il y a un pic et ça redescend. Lui, il dit tout faire pour que le pic soit le moins haut possible. Exactement. Et le moins haut possible, c'est quoi ? Ben, se laver les mains, ne plus embrasser ses voisins, n'aller pas voir les personnes âgées. Et peut-être que ça va réussir, parce qu'aujourd'hui, la progression continue, mais ça, on ne peut pas dire que ça flambe.
Exactement, et il le disait hier soir, enfin lundi soir, tous les patients atteints du coronavirus sont désormais sortis des hôpitaux. Hein. Il n'y a plus d'hospitalisation. Voilà. Alix Bouillet, Macron un peu en chef de guerre quand même depuis le début de cette crise et crescendo, j'allais dire, parce qu'il retourne hein, malgré tout sur le terrain, SAMU, aux côtés des hospitaliers, un peu partout.
Oui, alors là, demain, ce sera une parole un peu plus officielle, mais c'est vrai que tous les jours, on l'entend. Hein, il est à droite, à gauche, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, donc bon, sa parole est distillée. Demain, effectivement, a priori, pas de passage au stade 3, parce que de toute façon, il a été décidé que ce ne serait pas lui qui l'annoncerait, mais que ce serait le personnel de santé, en l'occurrence, soit son ministre Olivier Véran, soit le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, et que lui, après, débrieferait. Donc, demain soir, de toute évidence, c'est... on rassure. Et puis, je pense qu'il y a un gros coup de pouce aussi qu'il a envie de donner en faveur de l'économie. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont tous un peu tétanisés à l'idée de se dire que le pays puisse se crisper, se cabrer, qu'il y ait des faillites, qu'il y ait la récession. Oui. On voit Bruno Le Maire qui est extrêmement
présent,
tendu là-dessus. Des... Et on voit que certains sondages disent que le moral des Français commence à être un petit peu en berne, qu'il y a des choses qui se profilent. Et puis, on peut aussi regarder ce qui s'est passé en Chine. On a vu que le taux de croissance qui était pour le premier trimestre 2020 était prévu à 6%. En fait, il a été revu à la baisse à 2,3% pour un pays comme la Chine. Donc, en France, il peut y avoir des déflagrations. Et je pense que demain, Emmanuel Macron va vouloir dire voilà, le pays n'est pas à l'arrêt, on contrôle la situation. Mais on continue d'avancer.
Et puis, Adélaïde Zulfikar-Pasic, il y a quand même, dans 4 jours, le premier tour des municipales. Il va peut-être en être question aussi.
Alors, je ne sais pas s'il va l'aborder la question de manière directe, mais en tout cas, il est évident que dans son intention, au-delà de ces questions effectivement économiques, parce qu'on le voit aussi dans les enquêtes d'opinion, on voit que les gens arrêtent de fréquenter les cinémas, les restaurants, donc il y a ce sujet qui a une vraie préoccupation. On voit aussi que les gens déclarent avoir, pour certains, peur d'aller voter, se poser la question d'aller voter. Donc, il est évident qu'il va avoir, dans cette fonction de réassurance, peut-être qu'il va parler d'ailleurs des dispositifs qui sont pris, le fait que les gens vont venir avec leur propre stylo.
Oui, alors ça, on en parlait en début de semaine, effectivement. Peut-être qu'il va compléter,
Ou voilà, mais en tout cas, je pense, l'idée de montrer que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire dans le pays en général, et donc plus précisément dans les bureaux de vote, parce qu'on peut sinon se diriger vers une abstention vraiment importante par rapport à ce qui était anticipé initialement.
Moi, si j'avais vraiment mauvais esprit, je pourrais dire que les intentions d'Emmanuel Macron sont à la fois très légitimes, prendre la parole, s'exprimer comme il l'a fait après le Brexit, après les Gilets jaunes, un moment un peu solennel, mais qu'en même temps, ce n'est pas dénué d'intention à trois jours du vote, à la veille... De la fermeture des temps de parole de tout le monde, de prendre la parole et d'inciter finalement, dans son message, les gens à aller voter.
Il est aussi dans son rôle là-dedans. Je trouve que d'avoir choisi Olivier Véran, et qui a montré d'emblée, il a tout de suite été opérationnel et très bien, et on l'admire, et on s'aperçoit, alors qu'on admirait beaucoup Madame Buzyn, qu'il est bien meilleur qu'elle, et que tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est lui qui a le leadership, et c'est pas elle. Et moi, je crois qu'en creux, on se le dit aussi, quand on la regarde à la télé, dans le débat avec ses adversaires pour la mairie de Paris, où on s'est aperçu que c'était pas une politique. Et ça va être difficile pour elle.
Double effet qui se coule.
Oui,
parce que Véran, il fait le job aussi.
C'est un effet Véran qui est presque
contre-productif, en tout cas pour les marcheurs.
Absolument.
Et pour la candidate.
Oui, surtout pour Agnès Buzyn, effectivement, qui du coup apparaît en plus un petit peu comme étant celle qui a déserté au plus fort de la crise, potentiellement, alors que lui, il est celui qui a pris un peu le sale job, et qui est présent.
Mais avec volupté.
Et je pense, en plus, je précise quand même que dans l'opinion publique, c'était un parfait inconnu il y a encore 3 semaines. Ouais. Et il a su s'imposer, vous l'avez dit, très naturellement, jusqu'à supplanter Agnès Buzyn, qu'on a presque oublié par ses qualités de clarté, de pédagogie, parce qu'il inspire aussi tout naturellement.
Je pense qu'il ne va pas rester longtemps un inconnu.
Même à tel point que même les Républicains, Rachida Dati en tête hier soir, jugeaient la communication du ministre de la Santé assez efficace. Donc là, aujourd'hui, il fait vraiment l'unanimité.
Oui, c'est
donc
vrai.
C'est vraiment l'Union nationale, en quelque sorte.
Assez peu de voix pour critiquer. Moi, il me semble que le gouvernement, finalement, est dans la juste mesure de cette gestion. C'est-à-dire, on prend un peu le contre-pied de l'Italie. Ouais. Pas de dramatisation. Et en même temps, on a le sentiment que les choses sont quand même prises en compte au jour le jour.
Bon, on verra si ça tient, cette unité nationale. Et puis, on entendra évidemment Emmanuel Macron demain soir en édition spéciale sur Europe 1. Merci beaucoup, mesdames.
Merci.
Merci.
Merci. Europe 1.
À suivre dans votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Le 19h d'Isabelle Millet, la une de l'actualité ce soir, le match PSG Dortmund qui se prépare à être joué, mais à huis clos. On est quand même en direct, nous, avec les supporters aux abords du Parc des Princes et puis l'OMS qui qualifie l'épidémie de Covid-19 de pandémie désormais.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h.